RFI, 9h à Paris, 7h en temps universel.
RFI Matin.
Et un nouveau journal avec vous, Martin Guèze. L'éducation, rempart et espoir au Proche-Orient.
Espoir et phare dans la guerre, l'éducation denrées rares à Gaza, comme en Cisjordanie occupée, où les autorités palestiniennes ont rouvert plusieurs écoles fermées depuis plus de 2 mois. Près de 6000 enfants ont repris le chemin des classes. Reportage à suivre de notre correspondante Amira Suilem, qui a suivi la rentrée d'un collège de filles à Tulkarem.
La Chine se prépare à consommer local
et à faire sans les produits made in USA. Après une nouvelle surenchère de la guerre douanière entre Pékin et Washington, 145% de taxes imposées par les États-Unis sur les importations chinoises, 84% pour les marchandises qui feront le chemin inverse. Les États-Unis qui font monter la pression avant les pourparlers d'Oman. Émissaires américains et iraniens seront réunis demain, alors que le dialogue est rompu depuis 45 ans entre les deux pays. Ce sera notre dossier ce matin avec Guilhem Delteille. Au Mali, un journaliste arrêté pour avoir critiqué le ministre de la Justice du pays. Et puis enfin du football sur le terrain judiciaire. Kylian Mbappé qui joue contre son ancien club, le PSG, et qui réclame 55 millions d'euros.
L'éducation, nerf de la guerre au Proche-Orient.
Avec d'abord ces fermetures de 6 écoles de Jérusalem-Est, fermeture ordonnée par Israël contre ces établissements gérés par l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. L'État hébreu qui interdit l'UNRWA d'activité sur son territoire et qui accuse l'organisme d'attiser la haine contre Israël. Environ 800 enfants vont se retrouver privés d'école et d'éducation. Alors que dans le même temps, les autorités palestiniennes ont elles rouvert plusieurs écoles publiques qui avaient fermé le 21 janvier dernier au moment de l'opération Mur de Fer, lancée par l'armée israélienne en Cisjordanie occupée et qui avait privé plus de 6000 enfants de classe. Eh bien, après plus de 2 mois d'arrêt forcé, la sonnerie a retenti et l'école a repris tant bien que mal, notamment dans ce collège pour filles de Tulkarem, où s'est rendue notre correspondante Amira Suilem. Reportage.
C'est une rentrée qu'elles attendaient avec impatience et ça s'entend un peu. Efnan Mahmouda Ashkar, la directrice du collège, passe dans les classes saluer ses filles, comme elle dit.
Venez, on va emmener Rina dans sa classe.
Des filles de plus en plus nombreuses. Alors que les écoles des camps de réfugiés restent fermées, les élèves, privés de classe, affluent ici. L'établissement est passé de 820 à 900 collégiennes depuis sa réouverture.
Je vous présente votre nouvelle camarade. Elle nous arrive de Nour Shams. Bienvenue Rina, tu es ici parmi tes sœurs. Seul le retour à l'école peut nous ramener à la vie. Les Palestiniens n'ont rien d'autre que la force de leur volonté et de l'éducation. Ici, on s'arme par la connaissance, d'accord ?
Entre deux classes, Ayet Foukar, la professeure de sport, improvise un exercice de relaxation pour les élèves dans la cour.
Elles vont s'amuser avec des ballons pour se défouler un peu. Et puis après, je vais leur demander de faire éclater le ballon de baudruche d'une de leurs camarades. La situation politique n'est pas bonne. On n'est pas bien. Au moment même où je vous parle, il y a un drone israélien au-dessus de nos têtes. On l'entend 24 heures sur 24. Rien que ça, ça tape sur les nerfs. Ça donne l'impression qu'à n'importe quel moment, il peut se passer quelque chose.
Comme un répit dans la guerre, les rires des jeunes filles finissent par couvrir le bourdonnement du drone. Amira Suilem, Tulkarem, RFI.
Et à Gaza, la défense civile annonce ce matin la mort de 10 personnes, dont 7 enfants, lors d'une frappe israélienne. Tandis que l'armée de l'État hébreu, elle déclarait le renvoi de pilotes réservistes, alors qu'un millier d'entre eux, pour beaucoup retraités ou réservistes justement, ont adressé une lettre ouverte au gouvernement réclamant la libération des otages, même si cela doit passer par un arrêt des combats dans la bande de Gaza. Une déclaration impardonnable, selon le Premier ministre Benjamin Netanyahou.
La guerre commerciale est une bonne chose, selon Donald Trump.
Malgré les coûts, malgré les problèmes, malgré les marchés en berne, le président américain qui promet de la lumière au bout du tunnel à ses compatriotes. Une guerre commerciale qui vire au bras de fer entre les États-Unis et la Chine, puisque Donald Trump a relevé les compteurs chinois à 145% de droits de douane. Pékin répond avec des taxes de rétorsion à hauteur de 84%. Et petit à petit, les consommateurs chinois se font à l'idée qu'il faudra faire sans les produits américains dans leur vie de tous les jours, Claire Broderst.
Les chiffres ne cessent de grimper et ils se traduisent par une hausse des prix sur de nombreux produits, notamment liés au secteur de l'automobile, de la haute technologie ou encore de l'énergie. Tang, un jeune homme d'une vingtaine d'années, se rend sur son lieu de travail dans le quartier commerçant de Sanlitun à Pékin. Et pour lui, ses droits de douane sur les produits américains ne changent pas la donne.
N'achète rien de tout cela. Je n'en ai pas acheté depuis longtemps. Les produits fabriqués en Chine ont un bien meilleur rapport qualité-prix. Pourquoi dépenser autant d'argent pour des importations ?
Et c'est un sentiment très partagé aujourd'hui parmi la population chinoise qui ne doute ni de son savoir-faire, ni de ses politiques, bien au contraire.
Cela dépend de la façon dont Xi Jinping résoudra la question. Nous suivons le leadership de Xi Jinping, nous suivons le rythme de cette grande époque.
Des deux côtés du Pacifique, les produits importés deviennent plus chers, voire inaccessibles. Mais les Pékinois ne s'inquiètent pas tant que cela pour le moment. Plutôt que de tomber dans ce qu'ils appellent le piège tarifaire, ils préfèrent acheter chinois. Cléa Broders, Pékin, RFI.
Et ce matin, le président chinois Xi Jinping qui appelle l'Europe à résister ensemble à la coercition américaine. L'Union européenne qui a, elle, décidé de suspendre sa riposte douanière ce jeudi. Après le spectaculaire revirement de Donald Trump, riposte gelée pour 90 jours, là aussi. Une pause fragile, estime le président français Emmanuel Macron, selon qui l'Europe doit continuer à mobiliser tous les leviers disponibles.
Les États-Unis qui ont rendez-vous avec l'Iran demain à Oman.
Et Téhéran qui dit ce matin vouloir donner une véritable chance au pourparler, alors que Donald Trump a déjà mis la pression. Il a assuré que l'option militaire contre l'Iran restait sur la table, ce qui donne le ton avant le début des négociations. À Oman, c'est notre dossier du jour sur RFI. Et Guilhem Delteille est en studio avec nous pour nous expliquer tout ça. Bonjour Guilhem.
Bonjour Martin.
À ces négociations avec l'Iran qui sont une première pour Donald Trump, Guilhem, peut-on parler d'un revirement de la part du président américain ?
Alors, il est vrai que Donald Trump a plus habitué à une fermeté vis-à-vis de l'Iran lors de son premier mandat. Souvenez-vous, le républicain avait pris le contre-pied de son prédécesseur démocrate, Barack Obama, qui avait signé l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Il dénonçait un très mauvais texte et le 8 mai 2018...
I am announcing today.
Il annonçait le retrait des États-Unis de cet accord. Donald Trump avait alors renforcé les sanctions économiques visant la République islamique.
Une politique de sanctions reprise dès le début de son deuxième mandat par le président américain.
Oui, le 25 février, soit un mois après son retour à la Maison-Blanche, le président américain avait annoncé de nouvelles sanctions contre des acteurs du secteur pétrolier iranien et il menaçait de frapper les installations nucléaires du pays. Mais en parallèle, Donald Trump, qui aime se présenter comme un faiseur d'accords, a voulu rétablir une forme de dialogue. Le mois dernier, il a écrit au guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. Il l'enjoignait de parvenir à un accord et lui donnait une échéance, 2 mois avant de passer à l'option militaire. Et cet appel à négocier est cohérent avec le positionnement de Donald Trump, estime Holly Dagres, chercheuse au Washington Institute.
Croyez-le ou non, Trump est très allergique à la guerre. Il a vu ce qui s'est passé en Afghanistan et en Irak et il préfère éviter cette éventualité. Mais Trump est aussi une personne très difficile à cerner et on ne sait pas très bien jusqu'où il est prêt à aller.
Des négociations donc, Guilhem, mais dans quel but ? Quel serait l'accord recherché par Donald Trump ?
Eh bien, sur ce sujet, Martin, c'est le flou. Est-ce qu'il s'agirait d'un accord exigeant le démantèlement des infrastructures nucléaires iraniennes et la fin du programme balistique ? Ou un accord plaçant sous contrôle le programme nucléaire, comme en 2015, mais avec cette fois le nom de Trump dessus ? Il y a des lignes divergentes au sein de l'administration américaine, relève Holly Dagres.
Je pense qu'il existe une division au sein de la Maison-Blanche. Quelle position allons-nous privilégier ? Allons-nous suivre ce que préconise le conseiller à la sécurité nationale ou allons-nous suivre ce que préconise l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, c'est-à-dire ce que Trump a dit, qu'il faut un accord nucléaire vérifiable d'une sorte ou d'une autre. Et évidemment, il faudra faire avec ce que veut le président des États-Unis.
Et sa position, Martin, peut évoluer en fonction de l'avancée des négociations. L'imprévisibilité de Donald Trump, encore et toujours.
Et on commence à s'y habituer. Merci beaucoup, Guilhem Delteille, qui signait notre dossier du jour ce matin sur RFI.
RFI, 7h09 en temps universel et à Bamako où un journaliste a été arrêté.
Il s'appelle Alfousseini Togo, il est le directeur de publication du Canard de la Venise, un hebdomadaire malien. Il a donc été arrêté et placé sous mandat de dépôt par le pôle judiciaire anti-cybercriminalité. Pourquoi ? Eh bien pour avoir écrit un article publié le 8 avril dernier, très critique envers le pouvoir judiciaire au Mali. Article intitulé « La bourde du ministre Mamoudou Kassogué ». Voilà, Alfousseini Togo poursuivi pour atteinte au crédit de la justice. Il est aujourd'hui derrière les barreaux et il sera jugé le 12 juin prochain, David Bachet.
Le ministre de la Justice, Mamoudou Kassogué, affirmait récemment que l'indice de confiance des Maliens en leur justice était passé de 30 à 72% en 2024. Une déclaration qui n'a pas manqué de faire réagir. Dans son article, le journaliste Alfousseini Togo dénonce pour sa part un sondage pas fiable et dépeint un système souvent corrompu ou au service du pouvoir, a fortiori en cette période de transition. Sous Mamoudou Kassogué, les hommes ont-ils des droits ? Interroge le directeur du Canard de la Venise. Combien sont-ils en prison depuis des années sans procès ? Alfousseini Togo est accusé d'atteinte au crédit de l'État, injures et diffamations par le pôle judiciaire anti-cybercriminalité. Pour l'Union nationale des jeunes éditeurs de presse du Mali, Alfousseni Togo est emprisonné en raison de ses opinions et pour des motifs sans lien avec le droit de la presse. Reporters sans frontières dénonce une détention abusive et estime que l'inculpation sur la base de la loi sur la cybercriminalité et le placement sous mandat de dépôt d'Alfousseni Togo sont le dernier marqueur de la répression de la liberté de la presse au Mali.
Explication signée David Bachet du service Afrique de RFI.
À l'actualité africaine, c'est aussi le Gabon qui s'apprête à faire un bond dans l'inconnu.
Un bond sans bongo, ni Omar ni Ali, une grande première depuis 1967 dans le pays. Julien vote demain pour l'élection présidentielle. Près de 850 000 Gabonais attendus aux urnes et 8 candidats sur la ligne de départ. Un scrutin d'exception pour lequel les autorités ont décrété 2 jours fériés pour permettre aux électeurs de se déplacer et d'aller voter.
En France, une pénurie alimentaire en Guyane.
Des rayons vides après la grève des dockers en métropole. Grève bel et bien terminée au Havre ou à Rouen, mais qui a encore des conséquences aux Antilles, notamment sur les produits frais. Explication Emma Chevalier.
Dans les rayons des supermarchés de Guyane, les consommateurs remarquent depuis plusieurs semaines l'absence de certains produits frais.
Il manque de tout partout en ce moment. Beaucoup de fromage, beaucoup de frais.
Et avec la pénurie, évidemment, ce sont les prix les plus chers.
Des mouvements sociaux, principalement dans l'Hexagone, sont à l'origine de ces retards de livraison. Jean-Claude Florentini, secrétaire général du regroupement des importateurs antillais.
La raison majeure, elle est liée surtout à les mouvements des ports français qui ont été en grève depuis le mois de janvier avec des opérations ports morts qui ont considérablement affecter à la fois les rotations et puis perturber les chaînes d'approvisionnement.
Pour Jean-Luc Le West, vice-président de la collectivité territoriale de Guyane en charge de l'économie, les territoires ultramarins doivent sortir de la dépendance envers l'Hexagone.
Il devient aujourd'hui nécessaire pour nous de pouvoir regarder et d'accélérer le processus d'importation entre la Guyane et le Brésil.
Même son de cloche du côté des importateurs antillais. Beaucoup attendent la signature du traité de libre-échange avec le Mercosur pour développer les importations avec les pays sud-américains. Emma Chevalier, Cayenne, RFI.
Et le retour à la normale dans les supermarchés guyanais n'est attendu qu'à la fin du mois.
Enfin, en football, il pourrait, sur le papier, se retrouver sur les terrains de la Ligue des Champions, mais se retrouve surtout devant les tribunaux.
Kylian Mbappé qui rejoue contre le PSG et qui entend bien remporter une victoire judiciaire. Le capitaine des Bleus réclame à son ancien club la coquette somme de 55 millions d'euros, somme de plusieurs mois de salaire et de primes impayées. L'attaquant du Real Madrid à l'offensive devant les tribunaux, Cédric de Oliveira.
C'est peu dire que l'histoire d'amour entre Kylian Mbappé et le PSG s'est mal terminée. Alors que son contrat s'achevait en juin dernier, le joueur estime notamment que ses derniers mois de salaire n'ont pas été payés par son club, vexé de le voir partir au Real Madrid sans indemnité de transfert. Pour son avocate Delphine Vereden, les dirigeants parisiens sont tout simplement hors la loi.
Oui, il y en a eu des contrats signés. Est-ce qu'ils ont été exécutés? Oui. Jusqu'à leur terme? Oui. Payés? Non. Que manque-t-il ? 55 millions.
Malgré 2 décisions de la Ligue de football professionnelle en faveur de Mbappé, les différents recours juridiques du PSG l'ont finalement conduite à se déclarer incompétente pour régler le litige. Tout comme la Fédération française de football qui a été saisie dans un deuxième temps. Le clan de la star a donc décidé de passer à l'attaque. Thomas Clay, autre avocat en charge du dossier, s'est appuyé sur les constatations de la LFP.
Il a été décidé de demander l'exécution forcée de ces décisions de justice. Nous avons saisi les comptes bancaires du PSG à hauteur de 55 millions d'euros par une saisie conservatoire.
Déterminé, Kylian Mbappé a décidé aussi de saisir la ministre des Sports. Il demande aussi à l'UEFA de sanctionner le PSG pour ses impayés. Enfin, il va saisir le Conseil des Prud'hommes où le club parisien ira se défendre sans problème, serein aussi de son côté. Une première audience doit avoir lieu devant le tribunal judiciaire de Paris le 26 mai.
Cédric de Oliveira, et puis sur le plan sportif, le PSG qui est bel et bien parti pour filer en demi-finale de la Ligue des Champions, contrairement au Real qui a été balayé 3-0 par Arsenal en quart de finale aller, c'était mardi soir, et puis hier soir c'était la Ligue Europa pour les nuls, Julien, 2 partout entre Lyon et Manchester United, 0-0 entre les Rangers et Bilbao, 1 partout entre Tottenham et Francfort, que des matchs nuls, et ce soir c'est le retour de la Ligue 1 avec Lens contre Reims, l'actualité du ballon rond, on y revient bien évidemment avec Annie Gasnier, ce sera pour le Café des Sports, rendez-vous 16h10. Temps universel, mais pour l'instant, je repasse le ballon à vous, Julien Coquelin.
Et je le saisis, merci Martin Guèze. Très bonne journée à vous, il est 7h15 à Paris et la suite des RFI Matin, c'est la revue de presse. Le tour de la presse internationale avec vous, Catherine Potet, à la une, guerre économique, l'affrontement entre les États-Unis et la Chine.
Les États-Unis et la Chine se lancent dans une guerre économique et tout le monde va souffrir, titre le Wall Street Journal. En augmentant ses tarifs douaniers sur les produits chinois et en suspendant l'augmentation des droits de douane pour des dizaines d'autres pays, le président Trump pousse les deux plus grandes puissances économiques du monde dans une bataille qui ne laissera aucun des deux indemne et qui risque de faire sombrer l'économie mondiale, estime ainsi le Wall Street Journal, qui ne cache pas son pessimisme. D'ores et déjà, explique le quotidien américain, les usines américaines annulent des commandes et certains fabricants chinois mettent leurs employés en congé provisoire.
Résultat, les actions américaines ont fortement chuté hier.
Et la situation n'est guère plus brillante côté chinois, car si l'on en croit le Wall Street Journal, une guerre commerciale à grande échelle avec les États-Unis signifie pour la Chine être exclue du plus grand marché de consommation du monde, à un moment où son économie s'appuie sur les exportations pour favoriser sa croissance. Constat du journal américain, la situation est d'autant plus critique que les économies des deux pays sont désormais profondément imbriquées l'une dans l'autre. Sachez également qu'au Canada, le journal Le Devoir se demande, lui, si l'on se dirige vers une rupture monumentale entre les États-Unis et la Chine, rupture qui mettrait en péril le destin des deux superpuissances, menaçant de tirer l'économie mondiale vers le bas.
À la une également, Catherine, le sort des migrants subsahariens en Mauritanie.
C'est le journal allemand Die Welt qui s'est penché sur la question et qui explique comment la Mauritanie, partenaire de l'Union européenne, a adopté une ligne dure envers les migrants. Raids policiers, fermeture des frontières, centaines d'arrestations. Depuis que la Mauritanie a signé un accord migratoire avec l'Union européenne, la situation des étrangers devient de plus en plus critique. Die Welt en veut pour preuve une vidéo datant du début du mois de mars, dans laquelle une jeune femme qui dit être originaire de Côte d'Ivoire est assise par terre avec un bébé dans les bras. Son mari et d'autres membres de sa famille ont été arrêtés. Elle-même fraîchement opérée d'une césarienne peut à peine bouger ou manger. Elle demande de l'aide et affirme que les Ivoiriens vivent l'enfer en Mauritanie.
Une vidéo dérangeante, estime Die Welt.
Selon le journal allemand, le gouvernement mauritanien parle toutefois d'opérations de routine pour des étrangers qui n'ont pas renouvelé leur permis de séjour. Une version contestée par les principaux intéressés selon lesquels il n'existe tout simplement aucun moyen légal de prolonger les visas. Le gouvernement mauritanien est critiqué, mais l'Union européenne aussi. De nombreux migrants, explique Die Welt, soupçonnent Nouakchott d'intervenir au nom de l'UE au terme d'un accord conclu en 2024 qui prévoit entre autres une aide financière européenne en échange de contrôle aux frontières et d'une politique de retour plus stricte.
Enfin, en France, Libération s'intéresse aux coiffures afro.
Pour que la boucle ne soit plus bâclée, titre joliment le quotidien français qui a rencontré Ghana Hélin, la fondatrice des ateliers Crépus, qui propose des formations aux professionnels de la coiffure pour permettre l'inclusion de ses cheveux encore boudés par la majorité des salons hexagonaux. L'entrepreneuse de 29 ans, précise Libération, a déjà conquis plusieurs institutions comme l'Opéra de Paris ou la Comédie Française. Acquérir ces techniques, explique une coiffeuse de la Comédie Française, nous permet de mettre nos comédiens sur un pied d'égalité et d'éviter aux comédiens afro de se coiffer eux-mêmes. De manière plus générale, il reste beaucoup à faire. En France, près de 200 salons de coiffure seulement sont capables de coiffer les cheveux crépus, soit 0,2% des établissements recensés dans l'Hexagone.
Catherine Potet pour la revue de presse internationale. Merci beaucoup. À demain.
RFI Matin.
Et dans l'actualité, ce matin, l'Ukraine et ses nouvelles frappes russes sur Kiev et plusieurs villes du pays, 2 morts et 35 blessés, alors que de son côté, l'armée russe revendique la prise d'un village dans la région frontalière de Soumy. Ce serait une avancée dans cette zone du nord-est dont les troupes de Moscou avaient dû se retirer dès le printemps 2022, mais quelle frappe presque quotidiennement. La ville de Soumy elle-même n'est qu'à une trentaine de kilomètres de la Russie et sur place, les civils payent le prix fort des bombardements. Il y a 2 semaines, une explosion dévastait tout un quartier résidentiel et notre correspondante Emmanuelle Chaz a pu se rendre sur les lieux. Reportage.
À Soumy, dans ce quartier à quelques minutes de voiture du centre-ville, la vie s'est arrêtée le 24 mars dernier, lorsqu'une puissante explosion a soufflé les vitres d'une vingtaine de bâtiments, dont une école. Tous ont cru à une frappe russe, mais il pourrait s'agir d'un acte de sabotage ou d'un accident survenu dans un dépôt de munitions dont tous ignoraient l'existence. Alors que les autorités ne donnent pas de détails sur les faits, Oleg, un sapeur-pompier qui était sur place, revient sur les lieux dévastés.
C'est l'école. Vous voyez dans quelles merveilleuses conditions nos enfants vont maintenant pouvoir étudier. Au moment de l'attaque, ils étaient dans l'abri, environ 40 enfants. Et la force du souffle était telle que la porte s'est bloquée.
Quelle que soit l'origine de l'explosion, les Ukrainiens en rendent la Russie responsable. Parmi les enfants présents ce jour-là, Diana, 9 ans, revient avec son père Oleksii. Elle raconte ce qu'elle a vécu.
Je me suis envolée de ma chaise. J'étais simplement restée assise dans l'abri pendant le cours et puis il y a eu un grand bruit. Le plafond s'est fissuré, il y avait du verre partout et de la fumée. J'ai bondi de ma chaise et mon père a commencé à m'appeler quelques minutes plus tard. Il m'a dit que je pouvais partir. Alors avec Klinka, c'est mon ami, on a ouvert la porte et on s'est enfui aussitôt.
Au-delà des conséquences de cette explosion, Oleg le pompier s'inquiète des méthodes toujours nouvelles employées par la Russie pour détruire les infrastructures ukrainiennes.
C'est comme ça tout le temps, soit des établissements médicaux, soit le secteur résidentiel. Et ce n'est pas le seul cas. Les Russes lancent constamment des bombes sur des immeubles résidentiels de 9 étages, des roquettes sur des zones résidentielles. Mais il y a un nouveau truc. Depuis début mars, leurs drones attaquent de manière chaotique différentes parties de la ville, en plein milieu de la journée, les jours fériés. Et il y a des frappes sur des aires de jeu, des frappes directement sur les routes. Je ne sais pas, c'est juste pour terroriser la population d'une manière ou d'une autre.
Ce 24 mars à Soumy, un miracle s'est produit, selon Oleg. Même s'il y a eu plus d'une centaine de blessés, personne n'est mort. Mais depuis, à travers la région, des dizaines d'autres bombardements se sont produits et les habitants de Soumy vivent dans l'angoisse d'en être à nouveau victimes. Emmanuel Chaz, Soumy, RFI.
Notre reportage international en Ukraine à retrouver sur RFI.fr et notre application Pure Radio. C'est une affaire qui fait du bruit en Colombie et plus particulièrement dans la communauté juive du pays. Alors qu'il y a quelques jours, un rabbin controversé a été nommé directeur du culte. Son parcours interroge et inquiète. Bonjour Najat Penraba.
Bonjour, bonjour à tous.
Correspondante de RFI à Bogota, en Colombie. Tout d'abord, qui est ce rabbin qui fait débat aujourd'hui ?
Il s'appelle donc Richard Gamboa Ben Elezar. Il a été nommé la semaine dernière directeur des affaires religieuses du ministère de l'Intérieur de Colombie. En clair, cela veut dire qu'il est chargé de faire le pont entre les représentants de tous les cultes et le gouvernement. L'objectif est de leur garantir leur droit à la liberté de culte protégée par la Constitution. Sachant que la majorité des Colombiens sont catholiques et que la communauté juive représente ici environ 6000 personnes. Mais les diplômes et les certifications du rabbin Richard Gamboa sont remis en cause. D'après un article publié par le quotidien The Jerusalem Post, son ordination rabbinique aurait été payée $150, c'est à peu près 130 €, en ligne auprès d'une mystérieuse organisation en scientologie. Son certificat d'ordination a été signé par des révérends, donc des ministres du culte dans l'église protestante, l'une des trois principales confessions du christianisme. On lui reproche également des liens avec la mission diplomatique iranienne de Colombie. Richard Gamboa aurait participé à une journée de protestation contre la souveraineté israélienne à Jérusalem, une protestation soutenue par la République islamique d'Iran.
Mais il n'y a pas que son profil et son parcours qui inquiètent, Najat, il y a aussi ses prises de position qui font peur à la communauté juive.
Oui, en effet, car il s'en prend directement aux Juifs. Sur son compte X, il a écrit par exemple, en février dernier, qu'un immigrant juif en Israël n'était pas un juif, car le sionisme est une hérésie anti-juive et apostat. Il se définit lui-même comme défenseur des droits humains et anti-sioniste. Le mois dernier, toujours sur X, il condamnait cette fois l'instrumentalisation de l'Holocauste par le sionisme pour justifier l'extermination du peuple palestinien. Alors la communauté juive en Colombie met en garde. Pascal Péquet, le représentant de la communauté religieuse du pays, a déclaré que ce qu'il a fait est une disqualification de notre identité et de notre lien avec Israël. Avec M. Gamboa, nous n'avons aucune garantie pour le libre exercice du culte garanti par la Constitution. Cette affaire fait donc beaucoup de bruit et de nombreux internautes font des vidéos montrant comment ils ont acheté le même diplôme que le rabbin sur le site internet de l'organisation ésotérique. Tout ça rajoute davantage de tensions entre le gouvernement colombien et israélien. Je vous rappelle que depuis mai 2024, la Colombie a rompu ses relations diplomatiques avec Israël.
Najet Ben Rabah, à Bogota pour RFI, merci beaucoup. Bientôt 7h30 en temps universel dans les dessous de l'Infox. Ce matin, la tension qui ne redescend pas entre Alger et Bamako, une semaine après la destruction d'un drone malien par l'armée algérienne à la frontière. Les deux voisins ont respectivement rappelé leurs ambassadeurs et fermé leurs espaces aériens. Une crise diplomatique sans précédent, alimentée par un flot de désinformation sur les réseaux sociaux. Bonjour Grégory Genevrier.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
D'un côté comme de l'autre, des comptes influents soufflent sur les braises en diffusant massivement fausses rumeurs et images sorties de leur contexte.
Oui, à en croire plusieurs vidéos mensongères publiées sur TikTok ces derniers jours, des affrontements auraient eu lieu entre l'armée malienne et algérienne. La dernière en date montre une colonne de chars d'assaut légers progressant sur une piste en terre entourée de végétation. Le commentaire apposé sur ces images affirme à tort que le Mali contrôlerait une partie de l'Algérie.
Sauf qu'il n'y a pas d'affrontement entre les deux pays et que cette vidéo est sortie de son contexte.
Oui, on le sait d'abord grâce à l'identification du matériel. Les trois chars légers visibles sont des Stingray, des véhicules de fabrication américaine en service dans une seule armée au monde, l'armée thaïlandaise. Et en creusant un peu, on constate que cette vidéo a d'abord été diffusée sur YouTube sur le compte d'un militaire thaïlandais. Il est donc impossible de voir ce type d'équipement au Mali ou en Algérie.
Ce type d'images sorties de leur contexte se compte par dizaines.
Oui, c'est simple, il suffit de taper Algérie ou Mali sur les réseaux sociaux pour tomber très rapidement sur ce genre d'infox. L'une des plus en vue ces derniers jours prétend montrer des avions algériens de Sukhoi 30 volant en patrouille serrée dans le ciel malien. Mais grâce à une recherche par image inversée, on sait que la vidéo est authentique, mais qu'elle provient en réalité d'un reportage télé diffusé sur Arte il y a plus de 13 ans, en 2012.
Et à cela s'ajoutent aussi les fausses rumeurs d'implications étrangères.
Oui, la Libye, la Mauritanie, le Niger ou le Burkina Faso sont régulièrement cités par des comptes habitués à désinformer sur la situation régionale. Plusieurs publications affirment notamment sans aucune preuve que le maréchal Haftar aurait envoyé des milliers de soldats libyens en soutien aux forces armées maliennes. D'autres assurent aussi que l'Iran aurait fourni des drones suicides au Fama, encore une fois sans en apporter la moindre preuve. Des fausses rumeurs similaires circulent également côté algérien.
Mais alors qui diffuse toute cette désinformation ?
Eh bien, on retrouve tout un écosystème de comptes suivis par des centaines de milliers de personnes, principalement sur TikTok. Certains s'affichent directement face caméra, quand d'autres se contentent de diffuser des montages vidéo mensongers.
Et quel est le but derrière tout ça ?
Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que leur influence repose presque intégralement sur la diffusion de fausses informations, notamment à propos de la situation sécuritaire au Sahel et au Sahara. La dégradation des relations entre Bamako et Alger s'accompagne d'une véritable bataille numérique entre les comptes pro-maliens et les pro-algériens. Le sujet suscite de l'engagement et représente donc pour eux une occasion inestimable de faire des millions de vues facilement. Les commentaires en dessous de ce flot d'infox montrent que cet opportunisme alimente les tensions et radicalise les militants de chaque camp.
Grégory Genevrier pour les Dessous de l'Infox. Merci beaucoup. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur RFI. Vous êtes aussi nombreux, près de 2000 actuellement, à nous suivre et à nous écrire sur le direct de YouTube, le direct YouTube de RFI. Un salut ce matin à Béatrice qui nous écoute depuis Lomé au Togo, ou encore à Serge qui nous dit bonjour de Libreville.
RFI à Libreville, 104 FM. Freetown, 89.9 FM.
L'art de raconter le monde, Jean-François Cadet.
Le saviez-vous ? Elvis Presley était un grand lecteur du best-seller de Khalil Gibran, Le Prophète. Il a même offert le livre à ses proches, en l'annotant et en le soulignant. Héloïse Gay de Bélissène raconte Elvis à l'aune de cette grande passion. Titre du roman, Le King et le Prophète.
L'art de raconter le monde, avec Jean-François Cadet, samedi à 18h40 sur RFI. Le journal en français facile.
Bonjour, je m'appelle Priyanka et je suis indienne. J'écoute le français facile depuis un an. Les mots utilisés sont simples et très utiles pour la vie quotidienne. En tant que débutante, je l'ai trouvé génial car les podcasts proposent différents types de sujets intéressants décrits en français simple.
Le journal en français facile, c'est du lundi au vendredi à 16h TU sur RFI et quand vous le voulez sur françaisfacile.rfi.fr.